Merci Claire, tout d'abord. Vous remercier de l'invitation et me rendre compte, après l'exposé de Benjamin, que j'aurais mieux fait d'assister à l'ensemble des séances. Je ne l'ai pas fait, je voulais bien vouloir m'en excuser, parce que ça semble drôlement intéressant. Et peut-être que ça m'aurait permis de situer encore un peu mieux le cadre de ma réflexion. Donc je crois que ce qui m'avait été demandé, c'était de réfléchir sur la gouvernance de l'Internet telle qu'elle ressort des travaux du Sommet mondial de la société de l'information et d'un certain nombre de discussions qui ont lieu suite à ces sommets mondiaux et en particulier dans le contexte des forums de la gouvernance d'Internet. Et le dernier en date avait lieu le mois dernier à Rio. Et je me permettrai d'y faire allusion tout à l'heure. Vous verrez qu'effectivement, il y a, me semble-t-il, pas mal à accrocher à l'ensemble des réflexions qui ont été faites jusqu'à présent. Donc, mon exposé en deux temps. D'abord, premier point, un état des lieux, la gouvernance de l'Internet, un état des lieux. C'est de vous dire un petit peu où en sont les réflexions du Sommet mondial de la société de l'information et de ce qui a suivi. Et puis, peut-être deux réflexions, je ne peux même pas dire originales, parce que, bien évidemment, Habermas nous conduira à travers ses réflexions, et je vois qu'il a déjà été cité assez souvent, de même qu'un certain nombre de remarques que Marc Mascal a pu faire. Mais je voudrais, à travers deux modèles, réfléchir sur ce qu'on pourrait appeler un nouveau modèle de gouvernance. Et les deux modèles auxquels je pense, c'est le droit de l'environnement et peut-être plus récemment la question des droits de l'homme qui devient, me semble-t-il, de plus en plus centrale dans la gouvernance de l'Internet. Alors, un état des lieux, peut-être simplement rappeler que Internet est un bien public, tu viens de le rappeler, je crois que c'est extrêmement important, qu'Internet se situe entre deux logiques, et je crois que c'est important de rappeler ces deux logiques, qu'Internet a été proclamé comme la mort du droit étatique, et à cet égard-là, il est clair que la mort du droit étatique, c'est la mort de ce qui, jusqu'à présent, constituait un petit peu l'indice de confiance. L'État, c'était notre repère en matière de confiance dans ce qu'on peut appeler des mécanismes de démocratie et des mécanismes de balance d'intérêt. Internet est proclamé comme la mort du droit étatique, je reviendrai. Et enfin, quelques réflexions sur le modèle de gouvernance proposé par les sommets mondiaux de la société de l'information. Alors, Internet, c'est un bien public et c'est très clairement affirmé par les deux sommets mondiaux de la société de l'information. On parle de Global Facility, ça c'est l'affirmation anglaise. On parle de ressources publiques mondiales dans le cadre de la traduction française et dans le cadre de Tunis. Et peut-être une première réflexion, c'est que ce bien public se présente par rapport à d'autres biens publics comme quelque chose d'un petit peu différent, dans la mesure où la nature est aussi un bien public, l'eau est aussi un bien public, il s'agit peut-être d'un bien public naturel, tandis que dans le cadre d'Internet, il s'agit bien d'un bien public artefact, à construire et à construire. Donc nous allons peut-être voir que la façon dont la gouvernance de l'Internet aide, me semble-t-il, Internet à devenir ou à ne pas devenir ce bien public. Ce qui m'a intéressé, c'est tout à fait récemment, c'est en plein milieu de la réunion de Rio, c'est cette déclaration des ministres du Conseil de l'Europe relatif à la notion de service public que représentait Internet. La manière dont la notion de service public est appliquée à Internet est peut-être intéressante, puisque vous voyez l'idée de dire que la valeur de service public de l'Internet est compris comme le fait que les personnes doivent pouvoir compter de manière significative sur l'Internet comme un outil d'activité quotidienne et à partir de ce moment-là doivent pouvoir légitimement attendre que les services de l'Internet soient accessibles financièrement, fiables et continus. Alors je reviendrai sur d'autres passages de cette recommandation du Conseil de l'Europe qui fait allusion justement à l'enjeu démocratique et l'enjeu des droits de l'homme de ce que représente ce service public. Ce qui est peut-être intéressant ici, c'est de dire qu'Internet est devenu composante, par son ubiquité, de tout ce qui est la vie de l'homme. Elle est nécessaire comme une espèce de prothèse dans tout ce que nous faisons. Nous savons bien, évidemment, que les GPS que les RFID de plus en plus deviennent une dimension essentielle de notre vie quotidienne, de même bien évidemment que l'ensemble des services accessibles sur le web. Alors, Internet m'apparaît d'emblée comme à situer sur, entre deux logiques. Et historiquement, c'est peut-être intéressant de commencer par la première, hein, qui était la logique de l'espace public. Lorsque Internet a été créé, c'était véritablement comme une volonté de permettre à chacun de nourrir un espace public de discussion par une confrontation d'idées. Souvenez-vous qu'au point de départ, Internet était d'abord et avant tout une construction au sein des universités. Et puis, par rapport à cette première construction d'une logique qu'on peut appeler de l'espace public, une deuxième logique qui s'est progressivement peut-être substituée à la première, ou en tout cas s'est imposée comme une dimension dominante de l'Internet, c'est évidemment la foire commerciale, c'est le fait que de plus en plus Internet devient le support d'un certain nombre de services commerciaux, d'un certain nombre d'informations qui sont à acheter ou à vendre sur Internet. J'en viens à la réflexion comment Internet se situe par rapport au droit. Je dirais tout à l'heure, et c'est peut-être intéressant d'emblée de faire cette distinction, que le droit peut être considéré de deux manières. Il y a d'une part le droit à travers ses institutions étatiques et la production de ces institutions étatiques, et c'est sans doute à cela que tout juriste fait allusion lorsqu'il parle du droit. Le droit, c'est d'abord un certain nombre de codes, et puis il y a ce qu'on peut appeler l'état de droit. L'état de droit qui m'apparaît comme une valeur un peu différente du droit, et lorsqu'on dit que l'état lui-même est soumis à la rule of law, c'est une autre manière de concevoir la notion de droit comme l'expression d'un certain nombre de valeurs démocratiques, de valeurs de droits de l'homme qui s'imposent au fonctionnement de l'État. Et lorsque on dit que l'Internet est la mort du droit, c'est bien évidemment la notion d'Internet mort du droit étatique que l'on veut signifier. Alors, j'aime bien cette affirmation de Winserf, qui est, comme chacun sait, le créateur de l'Internet Engineering Task Force, hein, qui dit de manière extrêmement claire, en 99, à la veille du troisième millénaire, au moment où nous passons dans un siècle nouveau marqué par l'omniprésence de l'Internet, nous devons tout mettre en œuvre pour conserver le réseau sans restriction, sans entrave et non réglementé. C'est l'affirmation très nette suivant laquelle il faut préférer à la réglementation et son support étatique, base traditionnelle de notre confiance, autre chose, qui est la régulation, qui est l'affirmation et la référence à un certain nombre d'acteurs qui sont bien évidemment des acteurs qui sont par essence non gouvernementaux et qui véritablement sont beaucoup plus difficilement localisables et plus difficilement précisables. Ce qui m'intéresse effectivement, c'est, je crois que vous allez développer ce sujet-là, c'est la manière dont le droit étatique a toujours été considéré comme l'instrument de confiance essentiel dans une société démocratique souveraine qui est soumise à la règle de droit. C'est bien, me semble-t-il, de rappeler que le droit étatique lui-même est soumis à ce qu'on peut appeler l'état de droit, c'est-à-dire que lui-même est dominé et qu'il a à obéir aux valeurs lui-même qu'il sait, qui sont lui-même à la base de sa création, à savoir les valeurs démocratiques et les valeurs de droit de l'homme. Le droit étatique, c'est d'abord des institutions qui sont facilement identifiables, qui fonctionnent selon des procédures qui sont des procédures bien huilées, connues par tous, et qui permet d'engendrer une certaine prévisibilité et donc une certaine confiance de l'individu dans l'environnement et le fonctionnement de cet environnement qui l'entoure. Alors, la réglementation du droit suppose évidemment un ensemble de règles obligatoires qui sont toutes rattachés à l'État national ou international, soit dans leur élaboration, soit dans leur application, soit cumulativement dans l'élaboration et l'application. Je crois qu'il est extrêmement important de noter que le rôle du juge peut exister indépendamment du droit étatique formulé par l'État. Il peut exister dans la mesure où lui peut être aussi un outil de reconnaissance, de forme de régulation. J'y reviendrai tout à l'heure. Alors, Internet est la mort du droit étatique tout simplement parce qu'il y a une disparition des souverainetés nationales. Et cette disparition de souveraineté nationale, elle s'explique dans le monde d'Internet et dans le monde de ce qu'on peut appeler un monde global économiquement, par la collusion objective d'une puissance hégémonique, les USA, et de puissances économiques mondiales qui, d'ailleurs, pour la plupart, sont à raccrocher aussi aux États-Unis, que l'on pense à Google, que l'on pense à Microsoft, que l'on pense bien évidemment à toutes les sociétés qui interviennent dans le monde de l'Internet. Et ce qui est certain, c'est que cette puissance hégémonique US va favoriser aussi ce mouvement d'autorégulation, dans la mesure où ce mouvement d'autorégulation est favorable à la puissance économique mondiale en place. Disparition de souveraineté, je crois qu'on peut prendre simplement l'exemple d'Echelon, qui est un système de surveillance satellitaire qui permet bien évidemment d'espionner et de savoir ce qui se dit dans nos communications dans la mesure où elles passent, où elles sont transférées par satellite. Il est possible bien évidemment à une puissance politique comme les États-Unis de pouvoir évidemment intervenir partout et de déchiffrer les secrets, y compris de nos administrations, de nos États et de nos relations qui sont des relations privées. Alors cette disparition des souverainetés, elle existe aussi par le fait qu'il y a indéniablement, et cela se constate tous les jours, une faiblesse des organisations publiques internationales. Ces organisations publiques internationales sont incapables par rapport au phénomène d'Internet de le saisir dans la globalité de ce phénomène. Chaque institution intervient avec son champ de compétences extrêmement limité. L'OMPI intervient à travers la question des droits de propriété intellectuelle et a bien évidemment tendance à accentuer les prérogatives que sont les prérogatives de droit d'auteur sans se soucier d'autres réflexions qui pourraient être menées par une organisation publique, non pas concurrente, mais complémentaire, qui est celle de l'UNESCO, qui, bien évidemment, travaille, elle, beaucoup plus pour la diffusion de la recherche, de la culture et autres. Cet éclatement de compétences, cette ineffectivité des organisations publiques fait en sorte qu'elle n'apparaît pas du tout comme un contrepoids et comme un contrepoids crédible à cette régulation qui est une régulation économique mondialisée prise par un certain nombre d'acteurs importants de la vie de l'Internet. Troisième point qui m'apparaît important et qui explique cette mort du droit étatique, c'est l'avènement d'un certain nombre d'organes de normalisation internationaux, dits techniques, avec un statut qui est un statut extrêmement étrange, puisque ces organisations de normalisation internationaux sont généralement dépourvues, comme le W3C, même de toute personnalité juridique, ou sont simplement des organisations qui reposent sur des statuts d'organisation non-profit, comme l'ITF ou l'AECA. Alors, ce qui est intéressant, évidemment, c'est que ces organisations de normalisation vont adopter un certain nombre de normes qui sont dites techniques, mais qui, bien évidemment, ont un impact, et un impact considérable, sur la manière dont nous allons pouvoir dialoguer à l'intérieur de l'infrastructure. On peut penser à plusieurs exemples. Il est clair que les cookies sont une invention de l'ITF, et cette invention de l'ITF, bien évidemment, a un impact, et un impact considérable, sur la façon dont nos profils de consommation peuvent être construits et peuvent être utilisés par un certain nombre de sociétés, notamment les sociétés de cyber marketing. Et lorsque l'ICANN a décidé de créer une racine unique qui lui permet bien évidemment de contrôler l'ensemble de ce qu'on peut appeler les noms de domaine, il est clair que cette racine unique va permettre à l'ICANN de disposer d'une maîtrise de l'ensemble des noms de domaine et demain, si l'ICANN le souhaite, de pouvoir éventuellement supprimer, rayer de la carte de l'Internet et donc de la carte de l'échange mondial des pays comme l'Iran, des pays éventuellement qui n'apparaissent pas comme dignes de confiance aux yeux de la puissance hégémonique américaine lorsqu'on sait que l'ICANN est en lien avec les pouvoirs publics américains du Department of Commerce. Alors pour bien montrer cette manière dont ces organes de régulation peuvent opérer, je crois qu'un bel exemple, c'est celui que nous avons travaillé avec Denis en matière de RFID. Je ne vais pas revenir sur l'ensemble de ce schéma, mais ce qui est peut-être intéressant, c'est de voir connaissez tous les RFID, hein, les Radio Frequency Identifier, hein, c'est le fait que l'on puisse, à partir d'un tag qui peut être déposé à l'intérieur de votre corps, sur votre vêtement, sur des produits, suivre le déplacement à courte distance, sans doute, suivre le déplacement des personnes, et bien évidemment, à partir de ce moment-là, de générer un historique du déplacement et du comportement de ces personnes. Alors, voilà un outil technologique qui est réglementé par une organisation qui est une organisation qui progressivement s'est construite et qui est une organisation qui est devenue une organisation privée, purement privée, l'EPC global, qui répond à d'autres logiques que la logique technologique et à une certaine logique politique également. Je ne sais pas si vous vous notez, mais vous pouvez bien évidemment dans le coin supérieur gauche, hein, dans le coin supérieur gauche, la présence du Pentagone, hein, qui véritablement apparaît comme un membre présent extrêmement important dans la surveillance de cette régulation de l'Internet. Et puis vous trouvez à côté de ça là, toute une série de sociétés, hein, depuis Gillette, hein, jusqu'à Cisco, qui sont associées à cette régulation, plus des organisations de normalisation composées d'entreprises, hein, que ce soit le GS1 UK, hein, le GS1 Europe ou le AN International. Voilà un monde qui est régulé de manière totalement privée, et vous noterez, sans surprise, la présence tout en bas de VeriSign. L'idée, c'est effectivement, comme en matière de nom de domaine, où on parvient à étiqueter la présence de chacun sur le site web, ben de pouvoir aussi étiqueter la présence de chaque objet à l'intérieur de l'ensemble du monde, lorsque l'ensemble des produits seront étiquetés par RFID, je sais si ce sera bientôt, ben vous aurez la possibilité, à partir d'une étiquette RFID, de pouvoir connaître exactement qui est producteur de ce produit, mais également, s'il n'y a pas d'étiquette sur RFID, on peut penser par là au problème que cela va poser pour les pays en voie de développement qui n'ont pas les capacités technologiques d'implémenter ce genre de technologie, la façon dont certains pourront être exclus de ce qu'on peut appeler un commerce global. Alors, le SMSI, comment a-t-il abordé ce nouveau monde de l'Internet? Alors, ce nouveau monde de l'Internet est la volonté d'une gouvernance Internet. Peut-être rappeler que le sommet mondial de l'information, c'est une volonté personnelle de Kofi Annan au moment du sommet du millénaire à Monterrey, de dire ben, il est temps que nous nous occupions en tant que Nations Unies, de la façon dont ce bien public se développe, de manière bien évidemment à pouvoir permettre une confiance et une possibilité pour chacun d'entrer à l'intérieur de ce monde, de l'Internet, et d'en tirer le maximum de bénéfices. Vous savez aussi que le problème de la gouvernance de l'Internet a été esquissé à Genève, et qu'à Genève, on a dit, ben, il n'y a rien à faire. Qu'est-ce que c'est la gouvernance de l'Internet? Alors que, bien évidemment, la gouvernance de l'Internet, jusque-là, avait été réservée, c'est peut-être intéressant de le noter, à un domaine bien particulier, qui était le domaine des ressources critiques de l'Internet, à savoir les noms de domaine, les adresses IP. C'est bien sur ce point-là qu'avaient eu lieu les premières réflexions en matière de gouvernance de l'Internet. Et le sommet mondial de la société de l'information de Genève décide de mettre en place un groupe de travail sur la gouvernance de l'Internet, en disant, mais puisque nous souhaitons, nous occuper et nous préoccuper de gouvernance, dites-nous, qu'est-ce que ça veut dire, la gouvernance de l'Internet? Et une définition, la définition du groupe de travail, qui est des reprises telles qu'elles à Tunis, m'apparaît intéressante. Il faut entendre par gouvernance de l'Internet l'élaboration et l'application par les États, le secteur privé, la société civile, dans le cadre de leurs rôles respectifs, reste à savoir quels sont les rôles assignés à chacun, de principes, normes, règles, procédures de prise de décision et programmes communs propres à modeler l'évolution et l'utilisation de l'Internet. Donc il est clair que cette définition de la gouvernance de l'Internet va bien au-delà de ce qui était traditionnellement considéré comme la gouvernance de l'Internet, à savoir le domaine et l'adressage sur l'Internet. On va revenir là-dessus, puisque l'idée à partir de ce moment-là du groupe de travail était de présenter un certain nombre de scénarios qui disaient, vous savez, même en ce qui concerne le domaine et l'adressage sur l'Internet, il est temps que cela ressorte aussi de ce qu'on peut appeler l'ensemble des mécanismes publics-privés qui vont régler l'ensemble des autres questions de gouvernance de l'Internet. L'ensemble des questions de gouvernance de l'Internet, c'était à la fois l'infrastructure et la gestion des ressources Internet critiques, l'utilisation de l'Internet, vous voyez le spamming, la sécurité des réseaux, la cyberdélinquance, des questions d'intérêt général, la propriété intellectuelle, le commerce électronique, et bien évidemment les questions de développement. Ce qui est intéressant dans ce rapport du groupe de travail, qui ne va pas être suivi, on va le voir tout de suite, c'est que d'emblée, il y avait la volonté de dire tous ces objets sont en corrélation. Il n'y a pas moyen de faire en sorte que l'on puisse régler le problème du développement si en même temps, on n'a pas une vue sur l'infrastructure et la gestion des ressources Internet critiques. Il est clair que si on ne permet pas d'une manière ou d'une autre d'avoir des règles fixées par un organisme commun en matière d'infrastructure et de gestion des ressources Internet critiques, dans lequel, bien évidemment, les organisations publiques internationales doivent avoir leur rôle, il ne sera pas possible de régler, par exemple, le problème des questions de développement. Le problème de la propriété intellectuelle, bien évidemment, doit être vu en même temps que la question des droits de l'homme. Tout cela doit faire l'objet d'une réflexion, et d'une réflexion globale. Si vous regardez, peut-être que je peux revenir en arrière, non, je vais revenir au précédent. Si vous regardez la définition, il y a un autre point sur lequel je reviens tout de suite, c'est que la définition de gouvernance fait allusion, et vous voyez, à des principes, normes, règles, procédures de prise de décision, programmes communs, propres à modeler l'évolution. Vous ne trouvez nulle part, et c'est quand même assez remarquable, de référence à la notion de loi. En d'autres termes, la gouvernance de l'Internet ne signifie pas, d'après ce rapport du groupe de travail, une intervention du législateur. Le législateur, qui était véritablement le pilier même du droit étatique, semble écarté de ce qu'on peut appeler la gouvernance de l'Internet. Puis un deuxième point qui m'apparaît intéressant, et ça, évidemment, ça va suivre le rapport du groupe de travail sur la gouvernance, ça va être la décision de Tunis, c'est de dire attention, distinguons bien gouvernance et gestion journalière de l'Internet. Alors, pourquoi cette distinction? C'est clair, c'est évidemment la volonté des États-Unis de dire, vous savez, il n'est pas question que la gouvernance puisse aller jusqu'à une réappropriation de ce qu'on peut appeler l'opérationnalité qui doit continuer à se construire, l'opérationnalité de l'Internet qui doit continuer à se construire à travers les organismes qui sont les organismes classiques, à savoir, bien évidemment, l'ICANN, l'ITF. L'ICANN a été particulièrement pointé, mais il est intéressant de voir que dans les préparations de Tunis, aussi bien l'ICANN que l'ITF que le W3C avaient été tous les trois pointés comme devant être soumis à cette gouvernance de l'Internet. Ici, l'idée est de dire, faites attention, nous laissons de côté la gestion journalière. Alors, dans quelle mesure est-ce qu'on peut dissocier gouvernance de gestion journalière? Dans quelle mesure est-ce qu'on peut considérer que la gestion journalière n'interfère pas avec les questions de gouvernance telles que nous les avons vues? Cela me pose problème, surtout que dans le même temps, le SMSI pose deux principes en ce qui concerne ce qu'il appelle la gouvernance de l'Internet. Le premier principe que le SMSI pose, c'est de dire que la gouvernance comprend à la fois le développement technologique et les aspects de politique socio-économique. C'est à la fois affirmé à Genève, mais c'est réaffirmé à Tunis. Et très clairement, si on s'interroge sur la signification de ce point, c'est d'affirmer que code is a code. C'est le dogme qui a été transmis par les SIC et qui affirme tout simplement que le code, c'est-à-dire les choix technologiques, sont bien évidemment déterminants d'un certain nombre d'aspects qui sont des aspects qui normalement relèvent de la décision publique législative. En d'autres termes, il est clair que ce qu'on peut appeler les choix technologiques influencent très clairement la manière dont on peut interférer à l'intérieur d'une société et la façon dont cette société est, à partir de ce moment-là, structurée. On va même plus loin dans l'agenda de Tunis, puisqu'on dit le développement de la technologie, qui a été un petit peu confisqué par les organisations privé international, W3C, le GS1 en ce qui concerne les RFID et l'ITF en ce qui concerne Internet et bien évidemment l'ICANN, tous ces développements de la technologie doivent prendre en compte des objectifs socio-économiques. Et le dernier point, c'est de dire, vous savez, c'est toujours une déclaration du SMSI, il est extrêmement important que les gouvernements puissent sur pied d'égalité, c'est le principe classique dans ce qu'on peut appeler le droit public international, peuvent sur pied d'égalité jouer un rôle et prendre les responsabilités en ce qui concerne les questions de politique internationale. Vous le voyez, en ce qui concerne l'Internet, mais pas en matière de gestion technique et opérationnelle. Alors, cette dissociation qui semble dire, vous savez, la technologie, laissez-la à des experts et ne vous occupez que des grands principes, apparaît, me semble-t-il, assez contradictoire par rapport à la première affirmation suivant laquelle la technologie est le lieu de décision en ce qui concerne la structuration des relations humaines. Le deuxième principe qui a émergé très fort à Tunis, c'est ce qu'on appelait la démocratie multi-stakeholders. C'est l'idée de dire, dorénavant, la démocratie quitte les lieux confortables des parlements nationaux, quitte les lieux confortables des délibérations internationales entre États, pour être réinvestie par quoi ? Par une délibération entre un certain nombre d'acteurs. C'est un processus, et le Tunis le dit, c'est un processus qui doit être transparent et multilatéral, avec la participation du gouvernement, du secteur privé. Le secteur privé, il s'agit bien évidemment des entreprises qui conduisent les aspects économiques, de la société civile et bien évidemment des organisations internationales. On a ajouté par la suite les universités et les organes de standardisation, sans doute pour nous faire plaisir. Moi, ce qui m'a frappé quand même, c'est le rôle de plus en plus important des universités, notamment, j'ai senti une très nette différence entre les discussions qui étaient les discussions du premier forum sur la gouvernance de l'Internet à Athènes et les discussions du second forum de la gouvernance sur l'Internet à Rio. Le poids dans les discussions des universitaires m'est apparu comme quelque chose d'extrêmement important. On y reviendra peut-être tout à l'heure. Il y a l'expertise, et peut-être que cette expertise de l'université comme lieu indépendant et neutre, m'apparaît comme quelque chose d'important. J'ai parlé d'une démocratie avec multi-stakeholders. Il est clair que ce qui est intéressant, c'est de voir la façon dont il y a une répartition des rôles qui est affirmée aussi bien par Genève que par Tunis. Et cette répartition des rôles, elle semble dire, dans un premier temps, que l'État reste un pouvoir de décision en ce qui concerne les questions de politique publique. On rappelle même le droit souverain des États à pouvoir se prononcer en matière de politique publique du développement de l'Internet. On rappelle évidemment aussi l'importance du secteur privé dans une logique économique, qui est un rôle essentiel dans le développement technique et économique, le rôle de la société civile, les ONG, évidemment les associations de défense des droits de l'homme, les associations de consommateurs, les organisations internationales publiques, bien évidemment, qui ont un rôle dit le sommet de Tunis, qui est un rôle purement de coordination des politiques nationales. Alors, ces nouveaux principes, dans quelle mesure sont-ils réalistes? Il est clair qu'il y a une première réflexion qui m'apparaît importante, c'est de dire que ces principes, dans la mesure où ils maintiennent une séparation entre gestion des aspects techniques et le reste, la gouvernance de l'Internet, m'apparaissent évidemment tout à fait contradictoires avec le fait qu'en même temps, on dit, vous savez, il y a indissociabilité de la technique et des aspects de politique publique. Deuxième point qui est frappant, évidemment, c'est de dire, OK, on a une démocratie qui doit s'appuyer sur la représentation d'intérêts divers, les multi-stakeholders. En réalité, on l'a très bien vu à l'IGF d'Athènes, où un certain nombre d'entreprises et d'entreprises privées disent laissez-nous continuer à effectuer nos politiques, qui sont des politiques à visée économique. C'est notre rôle, c'est notre stratégie. Nous n'avons pas à prendre en charge ce qui peut être le bien public. Nous devons pouvoir bien évidemment, réaliser notre propre efficacité économique. C'était particulièrement vrai, sans doute que Jacques s'en souvient, lorsque, bien évidemment, interrogé sur la politique de Cisco en Chine, tout ce que Cisco participe aux opérations de repérage sur Internet en Chine, sur l'intranet chinois, des discours d'opposants politiques, ben, il est clair que Cisco a dit que ce n'est pas notre rôle. Nous devons d'abord, évidemment, veiller à ce qu'on peut appeler la rémunération de nos actionnaires. Donc, laissez-nous en dehors de cela. Si vous voulez intervenir, ben, intervenez par une organisation publique internationale. Mais notre logique est une logique différente. Nous avons retrouvé cela même à Rio, lorsque un certain nombre d'entreprises comme Microsoft, Cisco et Google nous ont dit, ben, vous savez, il n'y a rien à faire. Nous faisons du business. Et lorsque nous contrôlons éventuellement un certain nombre de cyberdélinquance, nous le faisons pour nos propres besoins et notre propre intérêt. Nous n'avons pas à nous soucier de ce qui pourrait apparaître comme une lutte pour l'ordre public ou le bien public. Et de nouveau, une réflexion qui m'apparaît importante, c'est de noter que lors du colloque de Rio, il y a eu une volonté, et c'est la première déclaration qui a été la déclaration du ministre brésilien, de dire, ben, vous savez, il est temps, puisque nous souhaitons un multi-stakeholders, que l'IGF, à savoir le Forum sur la gouvernance de l'Internet, qui est le lieu par excellence de ce dialogue entre les différentes parties prenantes, puisse bien évidemment aboutir à des recommandations. Il y a eu un incident de séance et on a pu parler bien évidemment de cette possibilité pour l'expression de ces multi-stakeholders à travers l'IGF de pouvoir établir des recommandations. Voilà un petit peu l'état des lieux avec pas mal de scepticisme. Il est clair que le Sommet mondial de société de l'information s'engage vers une procédure qui est une procédure émergente de dialogue et de dialogue entre toutes les parties prenantes, mais vous le voyez, avec énormément de réticences qui sont dues, me semble-t-il, à cette fameuse collusion d'intérêts objectifs entre une puissance politique, les États-Unis, et d'autre part, des puissances économiques bien installées. Ma réflexion dans la deuxième partie, c'est de me dire, mais est-ce qu'il n'y a pas moyen de trouver un nouveau modèle de gouvernance, et cela à partir de deux types de réflexion, le modèle du droit d'environnement et puis le modèle qui est un petit peu, me semble-t-il, le modèle de l'Internet, à savoir un espace public vivant et qui me semble rejoindre de très près les réflexions d'Habermas sur l'éthique de la discussion. Et si vous me permettez, je continuerai de l'éthique de la discussion à l'éthique tout court et aux droits de l'homme. Donc la première réflexion, c'est en ce qui concerne le modèle du droit de l'environnement. Je dis d'emblée que même si Internet était un artefact, il représentait un bien public et donc qu'à partir de ce moment-là, un peu comme en matière de nature, il s'agit d'un bien public que l'on souhaite développer, que l'on souhaite défendre et auquel, bien évidemment, on souhaite que chacun puisse participer et défendre ses propres préoccupations. Alors, la comparaison avec le droit de l'environnement est intéressante parce que je crois que de la même manière qu'on a inventé Kyoto, qu'on invente pour le moment quelque chose à Bali, ben, de la même manière qu'on invente un certain nombre de principes nouveaux en droit de l'environnement, ben, il s'agit ici, comme en matière de droit de l'environnement, de développer la signification et la nécessaire protection d'un bien public global. Les risques, ben, ils en existent pour Internet comme en matière d'environnement. L'Internet, vous l'avez entendu, l'Internet, on l'envisage de plus en plus à deux vitesses. Nous avons un Internet qui risque d'être un Internet éclaté. La dissension de la Chine en prépare d'autres. Il faut savoir que d'autres pays souhaitent également se retirer de l'Internet, créer à travers un intranet et une passerelle de connexion leur propre maîtrise de leur réseau. Un Internet privatisé, c'est peut-être le point essentiel, puisque de plus en plus les logiques de droit de propriété intellectuelle et les logiques techniques permettent bien évidemment de restreindre l'accès à l'information à l'intérieur d'un certain nombre d'usagers, et un Internet pollué, un peu de la même manière que l'environnement est pollué. On peut voir évidemment qu'Internet est pollué à travers un certain nombre de spams qui s'avèrent catastrophiques, en particulier dans les pays en voie de développement. Internet et le développement durable, je crois que c'est un point, me semble-t-il, important. Internet, c'est bien évidemment l'instant où va filer l'ensemble de ce qu'on peut appeler le patrimoine de l'humanité si l'ensemble de ces informations, si l'ensemble de ce qui est véhiculé sur Internet disparaît tout simplement parce que la technologie n'a pas trouvé les moyens de la conservation de cette information. Et puis, espace virtuel et espace réel, je crois que c'est un point important, c'est de plus en plus l'espace virtuel qui est Internet rejoint l'espace réel et permet de découper cet espace réel. Vous savez tous les nouvelles applications que Google envisage à partir de nos mobilophones de quatrième génération, à savoir à travers des systèmes de localisation, la possibilité de vous envoyer un certain nombre d'informations qui sont directement liées à votre localisation, et vous savez la façon dont les RFID sont utilisés, bien évidemment, pour vous suivre dans vos déplacements à l'intérieur de l'espace. Bref, un certain nombre d'arguments qui m'apparaissent intéressants pour appliquer à Internet un certain nombre de principes qui ont valeur dans le droit de l'environnement. Alors, le droit de l'environnement, c'est d'abord et avant tout, vous connaissez tous la convention d'Aarhus de 1998, qui est une convention qui, au point de départ, a été faite sous les auspices des Nations Unies qui a été reprise par l'Union européenne et qui est mise en vigueur depuis 2001, octobre 2001. Alors, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces principes de la Convention d'Aarhus pourraient, me semble-t-il, révolutionner un peu la régulation d'Internet. Une première chose qui est, me semble-t-il, à souligner dans le cadre de cette Convention d'Aarhus, c'est de dire que la confiance dans le développement durable de notre environnement, elle n'est possible que si, bien évidemment, nous avons tous, en tant que tels, chaque citoyen, a une possibilité d'être informé. Ce qui implique, bien évidemment, de la part des autorités, dont le chef de l'environnement, uniquement les autorités publiques, on va revenir là-dessus lorsqu'on parle d'Internet, puisque cette obligation de transparence pourrait être transférée également à ce qu'on peut appeler les autorités privées, les régulateurs privés. Cette obligation d'information et de transparence des régulateurs publics dans le chef de l'environnement, public et privé, dans le chef de l'Internet, m'apparaît comme quelque chose d'intéressant. À quoi est-ce qu'on pense? On pense, bien évidemment, l'obligation pour nos organisations de normalisation mondiale, dont on a parlé, de permettre à chacun de savoir exactement quelles sont les technologies qui sont en discussion, quelles sont les normes que l'on souhaite appliquer, qui permettent bien évidemment, dans le cadre de ce qui est l'ISO, dans ce cas de ce qui est l'ITF, d'avoir une possibilité d'accès et d'accès direct, non seulement à un contenu technique. Dans le cas de la Convention d'Aarhus, il est bien insisté sur le fait qu'il ne s'agit pas d'une information d'une transparence en termes techniques, mais d'une information d'une transparence en termes, bien évidemment, d'impact sur la société. Je crois que c'est un chose qui m'apparaît très intéressant d'appliquer dans le cadre de l'Internet. Le deuxième point qui est important dans la Convention d'Aarhus, c'est l'obligation de participation, l'obligation de rendre possible la participation aux décisions, avec deux points, la représentation effective de toutes les parties intéressées, et dans la Convention d'Aarhus, ça va très loin, puisque un des problèmes qui se situe aussi bien en matière d'environnement qu'en matière d'Internet, c'est de voir dans quelle mesure toute une série d'associations, d'ONG, ont la capacité d'entrer dans le débat. Vous savez que la participation aux discussions techniques que peuvent représenter l'ITF, que peuvent représenter le W3C, sont extrêmement coûteuses. Et donc, il est important, bien évidemment, et c'est une volonté, une obligation dans le cadre de la Convention d'Aarhus, que soit subsidiée pour l'ensemble de ces organisations, associations civiles et ONG, que soit subsidiée leur participation à ces discussions. Deuxième point, c'est important, c'est l'obligation qu'a un décideur de prendre en compte les opinions exprimées et le devoir de motivation par rapport à ces opinions exprimées. Bon, je crois qu'il est important également dans le cadre du fonctionnement des organisations internationales de l'Internet de les obliger, me semble-t-il, à tenir compte des opinions qui ont été exprimées par les associations diverses autour de la table, pas simplement une logique de la force et du pouvoir attaché à l'argent, mais me semble-t-il une logique d'égalité de représentation, de pouvoir évidemment permettre une prise en compte et la motivation par rapport à ce qui est la décision de chacun. Dernier point qui est important aussi au niveau de la Convention de Russe, c'est l'accès à la justice. La possibilité pour toute association, pour tout citoyen, lorsqu'il n'a pas pu être entendu, parce que la procédure n'a pas suivi son débat normal, de pouvoir aller devant une instance qui doit, dans le cas de la Convention de Russe, qui est désignée comme la justice traditionnelle de l'État, qui, me semble-t-il, doit trouver une nouvelle expression dans un domaine où on dépasse les frontières, où on dépasse, me semble-t-il, le classique droit étatique. Au-delà de ces réflexions basées sur la Convention d'Aarhus, je crois qu'il y a un certain nombre de principes du droit de l'environnement qui sont utiles à rappeler, qui mettent en jeu ce qu'on peut appeler la responsabilité des acteurs. Responsabilité des acteurs en ce qui concerne le devoir d'assessment. Vous savez que c'est une volonté en matière d'environnement de dire, vous savez, si vous lancez un nouveau produit, une nouvelle technologie, il est important que vous, avant de la lancer de manière complète, vous évaluez les risques et l'impact sociétal de ces nouvelles technologies, ou éventuellement l'impact sociétal de cette nouvelle production. Le deuxième point, c'est le principe de précaution qui a été reconnu, le gouvernement français l'a rappelé, en tout cas Nicolas Sarkozy l'a rappelé, que le principe de précaution devrait devenir un principe international de droit, le principe de précaution qui veut bien évidemment que, de nouveau, en matière de risques pris à travers des choix technologiques, il y ait, avant de lancer la diffusion de ces choix technologiques, lancer les produits technologiques correspondant à ces choix, qu'il y ait un moment de retenue et d'évaluation des risques associés à ces technologies. La responsabilité partagée à raison des risques créés, voilà encore un autre point, tout le monde connaît la responsabilité du pollueur, dans quelle mesure, à partir du moment où Microsoft met en place des systèmes qui permettent les spyware, qui permettent un certain nombre d'atteintes à la protection des données ou éventuellement à d'autres droits fondamentaux, dans quelle mesure n'y a-t-il pas une responsabilité partagée des fournisseurs d'équipements et autres. Et enfin, je crois que c'est un point essentiel dans le cadre d'Internet, c'est le devoir de mémoire et de diversité, le développement durable, et le SMSI rappelle la nécessité pour l'ensemble des acteurs de contribuer au maintien de ce qu'il appelle le patrimoine informationnel commun de l'humanité. Je crois que c'est un point important, c'est la création d'archives numériques, c'est la création de logiciels qui permettent bien évidemment la possibilité de conserver dans la durée les produits de la réflexion humaine. Certes, le droit de l'environnement est un bel outil, me semble-t-il, pour réfléchir sur l'avenir de notre droit de l'Internet et pour créer la confiance, mais je crois qu'il est, me semble-t-il, encore limité. C'est clair que dans le droit de l'environnement, il y a un seul interlocuteur qui est pris en compte. La Convention d'Aarhus mentionne comme un seul interlocuteur que les autorités publiques. C'est eux qui doivent veiller à l'information, à la prise de participation, au débat démocratique. C'est eux qui doivent mettre en place les mécanismes de responsabilité. Comment va-t-on faire dans le cadre de l'Internet s'il n'y a plus un régulateur public mondial pour adresser ce genre de préoccupations? Deuxième point qui m'apparaît important, c'est que l'environnement joue sur un seul registre qui est à la limite ce qu'on peut appeler le droit à la vie, le droit à la santé. Dans le cas d'Internet, on joue sur tous les registres, puisque Internet accompagne nos vies, structure notre vie et a indéniablement une dimension sociétale, que ce soit dans l'éducation, que ce soit dans les relations avec autrui, que ce soit dans les valeurs qu'elle transmet. Bref, dans le cas d'Internet, il me semble que les préoccupations sont bien au-delà des préoccupations de ce que peut être le droit de l'environnement. Et il est certain, c'est le dernier point, que si nous sommes dans le domaine d'Internet, il est difficile de ne pas aborder les questions de valeur, là où en matière de droit de l'environnement, on pouvait se limiter à des questions de mondialisation, c'est-à-dire réfléchir uniquement sur ce qu'on peut appeler des sphères économiques et de production technologique. En matière d'Internet, nous sommes forcés de parler d'universalité, c'est-à-dire de partage de sens et de valeur à l'intérieur de ce cyberespace. Et on arrive dès lors à la deuxième piste de réflexion, une deuxième piste de réflexion qui naît spontanément, me semble-t-il, du fait que Internet, c'est le lieu, me semble-t-il, par excellence, de ce qu'Habermas appelait de ses voeux, à savoir la construction d'un espace public. Internet, c'est d'abord et avant tout la possibilité pour chacun de s'exprimer, la possibilité pour chacun de sortir de ces contraintes qui sont des contraintes imposées par le lieu, le temps et l'espace, et de pouvoir évidemment apporter sa contribution à travers son expression à l'ensemble de l'humanité. Et donc, il m'apparaissait intéressant de reprendre les réflexions d'Habermas et de me dire qu'est-ce que ça donne en matière de droit de l'Internet. Alors, la thèse principale d'Habermas, lorsqu'il parle de l'éthique de la discussion, c'est de dire que la normativité n'est plus le fruit imposé par une autorité publique, elle est le fruit d'une discussion argumentaire. J'ai pris une phrase d'Habermas dans l'éthique de la discussion, « Seuls peuvent prétendre à la validité les normes qui pourraient rencontrer l'accord de toutes les parties prenantes autour d'une discussion pratique. » Et donc, pour Habermas, ce qui est essentiel, c'est les conditions procédurales de la discussion, le droit de parole qui doit être laissé à chacun, la nécessité d'une argumentation, le rejet des positions de force. Dieu sait si en matière d'Internet, ça m'apparaît important, dans la mesure où les déséquilibres informationnels et le pouvoir que donne l'information fait en sorte que certaines sociétés détentrices de l'information apparaissent véritablement comme sûres, pondérées par l'expression de ces sociétés, apparaît comme surpondérées par rapport à l'expression d'un simple citoyen. Et enfin, les conditions de transparence de la discussion, c'est-à-dire de savoir d'où chacun parle, et bien évidemment de le faire dans un cadre où chacun sait ce qui est dit et ce qui peut bien évidemment être entendu par les autres. Dans le cadre de cet espace de discussion et dans le cadre de cette éthique de la discussion, je crois qu'il est important aussi de se rendre compte que l'éthique de la discussion en matière d'Internet, ce n'est pas uniquement l'éthique d'une discussion individuelle. Je crois que c'est important de dire aussi que cette éthique de la discussion est une dimension collective, dans la mesure où s'expriment non seulement sur Internet des personnes, mais bien évidemment aussi des communautés. Et à cet égard-là, je crois qu'une des choses les plus importantes de ces dernières années, qui me semble-t-il doit prendre sur Internet toute sa valeur, c'est cette fameuse convention de l'UNESCO qui affirme que, bien évidemment, il faut, sur Internet comme ailleurs, reconnaître une diversité des expressions culturelles. Ça veut dire, et j'y reviendrai tout à l'heure, le fait que non seulement les personnes en tant que telles doivent être présentes, mais les communautés, avec leur richesse d'expression langagière, avec leur richesse de valeurs culturelles, doivent pouvoir, avec leur propre culture, leur propre éthique également, doivent être présentes sur Internet. Au-delà de l'éthique de la discussion, il me semble que, nous l'avons dit, si Internet est d'abord un lieu de réflexion sur les valeurs, il est important qu'au-delà de l'éthique de la discussion, il y ait aussi, me semble-t-il, une réflexion sur les valeurs éthiques qui supportent cette discussion et qui sont l'objectif de cette discussion. Et avec Philippe, on a beaucoup réfléchi sur cette question d'une éthique sur Internet. Quelles sont les valeurs éthiques qui pourraient être des valeurs éthiques universelles qui devraient s'appliquer sur Internet. Ces valeurs éthiques universelles, nous avons trouvé dans deux valeurs éthiques qui m'apparaissent importantes, la société et la justice sociale d'un côté, et d'autre part l'autodétermination qui, me semble-t-il, est le gage même de la libre expression sur Internet. Alors, ces valeurs éthiques, elles retrouvent en droit une consécration à travers ce qu'on peut appeler les droits de l'homme. Les droits de l'homme, c'est important de dire, c'est plus en plus une construction que l'on retrouve dans le Conseil de l'Europe, dire que les droits de l'homme, vous savez, attention, ce n'est pas uniquement des valeurs éthérées, ça a aussi une dimension qui est une dimension économique et sociale. Et les droits de l'homme, à cet égard-là, sont quelque chose d'indivisible. Il n'est pas possible d'affirmer l'autodétermination si en même temps vous n'avez pas une réflexion sur la solidarité et la justice sociale. À quoi sert-il de dire qu'un Sénégalais a la possibilité de s'exprimer librement sur Internet s'il n'a pas cette possibilité d'entrer dans le monde Internet, c'est-à-dire s'il n'a pas un accès à Internet. Solidarité, droits de l'homme économique, solidarité ou les droits de l'homme économiques et sociaux sur Internet, c'est, me semble-t-il, un point qui est un point majeur des décisions, ou plutôt des déclarations du Sommet mondial de la société de l'information, c'est le principe de l'accès universel. Alors, l'accès universel, j'insiste sur le fait qu'il est important de ne pas le réduire à l'accès à l'infrastructure. Je crois qu'il est important de reconnaître que ce principe d'accès universel, c'est aussi, me semble-t-il, l'accès à l'expression sur Internet, ce qui suppose évidemment le droit à l'éducation de l'utilisation de l'Internet, mais aussi la possibilité sur Internet de pouvoir faire valoir sa propre culture. J'étais très frappé lors d'une réunion qui avait été organisée par le Conseil d'Europe de voir un Norvégien nous dire très, très sincèrement, vous savez, moi je fais partie d'un pays développé, je souhaiterais avoir la possibilité que mon langage, c'est-à-dire le vocabulaire norvégien puisse être reconnu, les caractères alphabétiques norvégiens puissent être reconnus sur Internet. Donc, l'accès universel, c'est bien au-delà, me semble-t-il, de l'accès à l'infrastructure, c'est la possibilité d'un accès à l'expression sur Internet. Alors, cet accès à l'expression sur Internet, ce n'est pas uniquement un problème d'éducation d'accès, c'est aussi un problème de régulation de ce qu'on peut appeler les personnes qui sont là pour contrôler l'accès à Internet, les gatekeepers. Je crois, et c'est, me semble-t-il, quelque chose qui était très nettement mis en valeur à Rio, c'est la nécessité dorénavant d'avoir une réflexion sur le rôle que peuvent jouer des organismes comme Google, dans la mesure où de plus en plus le passage à la recherche d'informations, à l'accès à l'information, est régulé par le fonctionnement de Google. Alors, c'est très bien de dire que Google est une merveille, est merveilleux dans la mesure où il permet une bibliothèque universelle, mais il y a derrière Google un fonctionnement de Google qui est tout à fait non transparent et qui, me semble-t-il, sont importants. Il est important de pouvoir comprendre et connaître. Deuxième principe qui m'apparaît lié à ce devoir de solidarité, c'est le principe de la non-nuisance à autrui. Alors, je crois que ça veut dire, bien évidemment, la lutte contre la cybercriminalité, mais ça veut dire aussi qu'il y a, dans un certain nombre de choix technologiques, des choix qui sont des choix qui permettent, bien évidemment, l'atteinte aux droits d'autrui. Je pense à un certain nombre d'implants RFID qui permettent de contrôler à distance le fonctionnement, y compris le fonctionnement du cerveau des personnes. Et je pense, bien évidemment, au spyware qui pose, bien évidemment, des problèmes importants. Donc, premier droit de l'homme auquel je songe, solidarité et justice sociale. Deuxième droit de l'homme auquel je pense, c'est évidemment l'autodétermination. Il m'apparaît essentiel dans la mesure où elle est la condition d'une prise de parole libre. Et j'ajouterai qu'une fois que vous avez la condition de prise de parole libre, il est peut-être important de renvoyer aux citoyens une certaine responsabilité, à savoir la responsabilité d'une prise de parole et à partir de ce moment-là de participer à ce que, si j'ai bien compris, Mme Sanger s'appelait les jurys citoyens. Alors, l'autodétermination comme condition de prise de parole libre, Internet est quelque chose de merveilleux dans la mesure où, a priori, il permet cette libre expression, il permet à chacun de s'auto-affirmer dans le cyberespace. Si l'on regarde un peu plus près, il y a, me semble-t-il, un certain nombre de biais, et de biais qui sont importants à prendre en considération. Si nous voulons que les personnes s'expriment librement, et non pas de manière normalisée, car la technologie est aussi une manière de normaliser les gens, et ce soir, il y aura à Bruxelles, vous savez, une réflexion sur les problèmes de surveillance, et la surveillance sur Internet est partout, la surveillance comme outil de normalisation des comportements, mais il est important, me semble-t-il, si l'on veut qu'il y ait vraiment une autodétermination, qu'on permette deux choses. la séclusion et d'autre part la possibilité d'une maîtrise de la manière dont circule notre image informationnelle sur Internet. Il est clair que si nous n'avons pas cette possibilité de nous retirer à un moment donné du monde d'Internet ou éventuellement d'y fonctionner de manière anonyme, il est certain que nous n'oserons pas toujours dire ce que nous pensons, donc il est important, me semble-t-il, de garantir un droit à l'anonymat. L'affirmation des choix essentiels, c'est évidemment la possibilité de connaître exactement comment notre image informationnelle est saisie, la façon dont elle peut bien évidemment être à un moment donné utilisée par un certain nombre de logiques qui sont mises en œuvre par des systèmes experts, systèmes d'aide à la décision, pour prendre des décisions par rapport à nous. Cela implique bien évidemment, cela a été dit et rappelé, malgré que cela ne figurait pas à l'ordre du jour de Rio, l'importance que la protection des données à caractère personnel représente. Ça implique, me semble-t-il, la maîtrise du terminal. Nous utilisons un certain nombre d'outils, nous ne savons pas ce qui entre à l'intérieur de nos terminaux, ce qui entre à l'intérieur de nos GSM, nous ne savons pas où ces informations partent, et nous ne savons pas la façon dont la technologie éventuellement divulgue un certain nombre de données relatives à nous-mêmes. S'il y a autodétermination, je crois que c'est un point important aussi, que le citoyen du cyberespace à partir de là utilise cette autodétermination et prenne la parole sur Internet. Je crois qu'il y a une insuffisance, me semble-t-il, de prise de parole sur Internet en ce qui concerne les mécanismes et l'environnement qui nous entoure. C'est un point important, et je reviendrai tout à l'heure, sur la naissance de ce qu'on peut appeler des communautés virtuelles qui construisent elles-mêmes leur environnement et qui, à partir de ces communautés virtuelles, prennent des projets et des projets politiques sur Internet. L'urgence de ce dialogue est fondée, me semble-t-il, sur un double respect. C'est mes premières conclusions, ayant affirmé à la fois l'intérêt du droit de l'environnement et l'intérêt des droits de l'homme dans la régulation de l'Internet, il me semble qu'il est extrêmement important que, si l'on veut parler de gouvernance à l'Internet global, on mette l'accent sur le dialogue. Et ce dialogue suppose une éthique de la discussion, condition d'un maintien de l'Internet global. S'il n'y a pas éthique d'une discussion, je crois qu'à un moment donné, un certain nombre de sociétés, parce qu'elles ne se verront pas reconnaître dans l'originalité de leur propre culture, l'originalité de leur propre expression culturelle, se retireront d'Internet. Cela renvoie, me semble-t-il, aussi à l'éthique des pratiques. Alors, les droits de l'homme, il me semble, et c'est un point important, c'est que les droits de l'homme deviennent, à travers Internet, me semble-t-il, plus un projet et non plus une évidence. Les droits de l'homme se construisent, me semble-t-il, et certains que les droits de l'homme ne peuvent pas se concevoir de la même manière en Iran que chez nous, dans une société culturelle différente et fondée sur d'autres valeurs religieuses que les nôtres. Et donc il est important, me semble-t-il, que Internet soit cet outil de dialogue. Comme Ricoeur le disait, je crois qu'il est certain qu'on arrivera en matière de droits de l'homme à un consensus que dans la mesure où on se parlera et dans la mesure où prudemment on cherchera un consensus, des idées qui sont développées aussi bien par Ricoeur que par Delmas Marty. J'en terminerai pour dire que, me semble-t-il, il faut passer du droit tel qu'il est conçu actuellement, droit étatique, à ce qu'on peut appeler l'état de droit, c'est-à-dire réaffirmer deux valeurs qui, me semble-t-il, dominent le droit étatique et auxquelles le droit étatique lui-même devait se référer, mais qui maintenant deviennent centraux puisque le droit étatique disparaît. C'est la nécessité d'une démocratie délibérative et participative qui n'implique pas nécessairement une représentation parlementaire. La démocratie représentative n'est peut-être plus la démocratie représentative fondée sur l'élection, n'est peut-être plus la bonne solution, mais en tout cas, une démocratie délibérative et participative, multi-stakeholders réellement, m'apparaît véritablement nécessaire. Que l'éthique que je fais référence, à savoir l'éthique de solidarité, l'éthique de justice sociale, l'éthique de l'autodétermination, elle renvoie à de multiples codes d'éthique. Elle doit être réappropriée, me semble-t-il, en des lieux divers, qui peuvent être aussi bien les lieux association de professionnels qui peuvent être aussi bien l'éthique que Google doit, semble-t-il, décider, qui peuvent être bien évidemment l'éthique de l'IGF ou l'éthique des sociétés multinationales. Rôle fondamental des autorités publiques, je crois qu'il est multiple, garantir partout les conditions procédurales de la discussion, c'est un point important, affirmer les droits de l'homme dans une perspective pluraliste de dialogue et aider, me semble-t-il, à la construction d'un espace public mondial. Voilà, Madame la Présidente, les quelques réflexions que je souhaitais...